Collège public CADES, bonjour. La leçon d'aujourd'hui, que le vrai Dieu se lève.
La nouvelle session que l'on va suivre aujourd'hui s'intitule « La relation avec Dieu ». Et elle est importante parce que si l'on apprend à connaître la véritable nature de Dieu, eh bien on peut avoir une meilleure relation. Les relations dépendent de la manière dont on se connaît. Supposons par exemple que moi je sois quelqu'un de très solitaire, on va dire ça. J'ai pas trop envie de m'exposer, de dire beaucoup de choses. Et puis que quelqu'un vient et dit « moi je vais être ton ami, je vais te parler tout le temps, je vais être tout le temps à côté de toi ». S'il ne sait pas comment je suis, il va vouloir me parler tout le temps, parce que c'est comme ça qu'il a envie d'être. Et parce que je ne le connais pas bien, et parce qu'il ne me connaît pas bien, ça va mal se passer. Parce qu'en fait, on n'aura pas réussi à trouver un terrain d'entente. On n'aura pas réussi à trouver quelque chose qui colle. Hein? Et il faut arriver à se connaître. Et donc, cette première leçon, c'est en particulier sur la nature de Dieu. Donc, la nature de Dieu, c'est-à-dire arriver à découvrir réellement qu'est-ce qui est au fond du cœur de Dieu, ou plutôt de quoi le cœur de Dieu est fait. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'idée que, d'ailleurs on a chanté ce chant, ça nous est arrivé aussi, qui dit par exemple que Jésus est sévère dans ses exigences. C'est une manière de voir Dieu, qu'on le veuille ou non, c'est une manière de voir, et en fonction de cette manière qu'on a d'apprécier Dieu, eh bien, forcément, notre relation avec lui va dépendre de ça. C'est-à-dire que si je vois Dieu comme quelqu'un qui est sévère, forcément, je vais m'attendre de sa part à certaines réactions. Je vais m'attendre de sa part à certaines demandes. De la même manière, si je m'attends à un Dieu qui est entièrement grâce, entièrement amour et que jamais de correction, entre guillemets, eh bien, cette relation que je vais entretenir avec lui sera liée à ça. Je dis ça parce que dans le monde chrétien, il peut y avoir plusieurs extrêmes. Il y a des gens qui vont être assez carrés sur le fait de comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de Dieu, parce que si jamais je fais de travers, Dieu ne va pas me rater. Et à l'autre extrême, il va y avoir des gens qui vont dire « Mais moi, d'accord, je suis complètement dans le péché, dans ce que vous voulez, mais Dieu est amour, donc aucune importance après tout. » Malheureusement, ça arrive aussi. Et ces choses-là sont ni l'une ni l'autre ne sont justes, et c'est important du coup pour nous de pouvoir faire cette leçon, donc pour essayer de trouver effectivement qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu. Vous savez, et effectivement, le but de ce collège s'appuie sur la grâce de Dieu, le fait que Dieu est un Dieu de grâce, qu'il est un Dieu d'amour. Néanmoins, il peut y avoir des choses qui peuvent nous perturber aussi dans la parole de Dieu. Parce que si des gens se disent « Dieu est très exigeant », si des gens se disent « Dieu va te punir pour ton péché », c'est pas pour rien, c'est pas non plus sorti du chapeau, c'est sorti de la Bible. Tous les chrétiens s'appuient sur la Bible. Seulement la manière qu'on a de la lire, les filtres qu'on a pour lire la Bible vont donner un résultat
un peu différent. Si je mets des lunettes
roses, je vais voir la vie en rose. Mais si je mets des lunettes noires, je vais voir les choses un peu plus sombres. Et il est important aussi d'arriver, et c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller sur quelques passages difficiles, quelques passages qui sont peut-être un petit peu durs sur Dieu et sur sa manière d'agir, parce que c'est bon d'en parler, c'est bon de ne pas être avec des œillères. Regardez par exemple Genèse 6, 17. Genèse 6, 17, c'est le moment par exemple où Dieu envoie le déluge sur terre. Et c'est vrai qu'on peut se dire, eh bien, Dieu est un Dieu de grâce. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui prêchent ce genre de choses, mais enfin, sachez que ça existe. Certains vont aller jusqu'au point de dire que tout ce qui est arrivé de mauvais n'était forcément pas de Dieu. Donc, soit c'était le diable, soit c'était autre chose. Enfin, en tout cas, forcément, quoi qu'il arrive, ça ne vient pas de Dieu. Mais on va lire certains versets qui disent que, justement, ça vient de Dieu. Donc, c'est important de les lire. Genèse 6, 17 nous dit « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Là, c'est clair, c'est l'Éternel qui parle et c'est « moi, je vais faire ça. » Donc déjà, rien que ce verset, même s'il n'y avait que celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres, même s'il n'y avait que ce verset-là, nous montre que, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a fait des choses qui ont des impacts négatifs sur les humains, en particulier leur mort. On voit ça aussi, par exemple, on ne va pas spécialement s'attarder dessus, mais vous vous rappelez ce passage, par exemple, où Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, s'est un peu rebellée. L'Éternel a envoyé la lèpre sur elle. La lèpre n'est pas venue parce qu'elle a touché un autre lépreux. L'Éternel lui a envoyé la lèpre. 1 Samuel 25, 38 aussi, nous dit « Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. » Vous savez, Nabal, c'était le mari de Abigaël que David a épousé ensuite. Donc la question, c'est de se dire, voilà, j'ai des versets comme ça où clairement Dieu fait mourir des gens ou frappe de maladie. Et puis de l'autre côté, j'ai un Dieu qui est rempli de grâce, rempli d'amour. Donc comment est-ce qu'on peut réconcilier ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une explication? Parce que vous avez aussi remarqué, quand vous avez parlé à des non-chrétiens, ils vous ont dit, moi j'ai essayé de lire la Bible, puis quand je vois toutes les horreurs qui sont dedans, franchement ça ne m'intéresse pas, c'est dur, c'est mauvais, ça fait mal, c'est affreux. Et bien souvent, on va arriver, lorsqu'on commence à étudier un petit peu plus, on va se dire, tiens, je constate que sous l'Ancien Testament, là je trouve quand même un Dieu qui est quand même assez dur. Quand même. Et puis je vais lire le Nouveau Testament, là je trouve un Dieu qui est plutôt bon. Vous êtes arrivé aussi à cette conclusion? Ça c'est facile à faire. Mais la question c'est de se dire, mais alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup je laisse de côté l'Ancien Testament? Est-ce que je considère que tout ce qui est écrit, oui, ça peut nous servir, mais ce n'est pas tout à fait juste. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez par exemple deux versets, deux passages, on va les lire. Le premier, c'est dans Nombre 15, 32 à 36. Et le deuxième, c'est Jean 8, 3 à 11. Donc, Nombre 15 à partir du verset 32. Sauf erreur de ma part, c'est le premier événement qui s'est passé après que la loi de Moïse ait été donnée. Voilà, verset 32. « Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. » Ça veut dire quoi? La loi a été donnée, mais ce cas précis-là, bon ok, il n'a pas respecté le sabbat, il a ramassé du bois, qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre en prison, on va attendre. On va attendre pour savoir ce qu'il faut faire. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir hors du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Oui, c'est dur, hein? Assez dur. Là, je ramasse du bois pour me faire mon chauffage ou mon repas. Manque de peau, c'est un jour de sabbat. Et là, je finis lapidé par le peuple. Lapidé par le peuple, sur l'ordre de l'Éternel, qui passe par Moïse. Bon, je ne sais pas vous, mais ce n'est pas évident de se dire, je sers un Dieu comme ça. Et je ne sais pas trop ce que ressentaient les Juifs, les Israélites. Je ne sais pas trop. À mon avis, ils étaient quand même dans la crainte. Ce n'était pas évident. Maintenant, on va lire Jean 8, versets 3 à 11. Donc, Nombre, bien évidemment, Ancien Testament. Jean 8, Nouveau Testament. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Il n'y a pas énormément de détails qui sont donnés dans ce passage, donc on peut pas mal spéculer dessus. Par contre, ce qui est clair, c'est que les pharisiens ont emmené cette femme surprise en flagrant délit d'adultère pour éprouver Jésus. Remarquez là aussi que, jusqu'à preuve du contraire, voilà, il manque quelqu'un. Si on amène la femme surprise en flagrant délit d'adultère, la question est où est l'homme? L'autre question, c'est aussi, comment est-ce que les pharisiens ont réussi à la surprendre en flagrant délit? C'est peut-être un des leurs. C'était peut-être un piège. Peut-être qu'ils aimaient bien regarder ce qui se passait dans les maisons des voisins, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas joli, quoi qu'il arrive. C'est pas brillant. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et je pense que ça a pris un certain temps, puisque le verset 7 nous dit « Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit. » Et quelque part, plus je lis ce passage, plus je me dis, en fait, quand Jésus est en train d'écrire par terre, c'est comme... Alors, vous entendrez plein de gens qui pensent plein de choses là-dessus, mais je vous livre juste ce que je pense aujourd'hui. Voilà. Moi, je pense que Jésus écrivait par terre un peu en attendant que le temps passe. C'est-à-dire que les gens étaient en train d'accuser cette femme. « Regarde ce qu'elle a fait, regarde, etc. etc. » On pourrait dire presque, lui, se tournait les pouces. Quoi. C'était, en fait, moi, je ne suis pas concerné par cette histoire-là. C'est votre loi, je ne suis pas concerné par ça. Et il est dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. C'est à leur insistance, finalement, bon, allez, maintenant je vais être un peu poli et je vais bien vouloir leur parler. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous remarquez que ce qu'on a lu dans Nombre était aussi une question de lapidation. Et là, Jésus également est confronté à ce problème de lapidation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'elle a ramassé du bois? Est-ce qu'elle a commis un adultère? Oui, elle a commis un adultère. Le problème, c'est que du temps de Moïse, celui qui a ramassé du bois a été lapidé. Du temps de Jésus, eh bien, cette femme qui a commis l'adultère, on le voit, enfin on va le lire, est graciée. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Faut le faire quand même. Tout le monde vient, et il est dit, ils sont accusés par leur conscience. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la conscience aussi, hein? Leur conscience, bien évidemment, sur ces gens-là, était accrochée à la loi, étaient accrochés à ce qu'ils devaient faire, et Jésus les a finalement renvoyés à la loi. Il leur a dit, si vous n'avez pas de péché, ben vous pouvez jeter la pierre. C'est intéressant, c'est-à-dire que vous voulez utiliser la loi, mais cette loi, elle sera aussi utilisée contre vous, si vraiment vous voulez jouer à ce jeu-là. S'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors vous remarquerez quand même que, bien que Jésus ait fait grâce à cette femme adultère, il n'a pas dit qu'elle n'avait pas fait quelque chose de mal. Il lui a dit, « Va et ne pêche plus. » C'est un péché, mais tu es gracié. Tu as fait mal, mais je te gracie. Donc ce qui est important, quand on lit ces deux passages, on se dit, mais est-ce qu'il y a deux dieux? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux expliquer quelque chose d'aussi dur sur Nombre 15? Et imaginez si c'était à nous de juger. Quelqu'un a ramassé du bois le jour du sabbat. Bon. Très probablement, on aurait fait l'inverse. C'est possible. À nos yeux, bien souvent, bon, ramasser du bois le jour du sabbat... On serait prêt à passer l'éponge facilement. Et il se trouve que là, Dieu a été très sévère lorsqu'a priori, ça semble pas si terrible. Et Dieu, en tout cas Jésus, et on sait que c'est Dieu, a été rempli de grâce avec la femme adultère. Donc, c'est important de connaître la nature de Dieu. Selon ma manière que je vais avoir de comprendre qui est Dieu, je vais agir d'une manière ou d'une autre. La question c'est, voilà, comment j'arrive à réconcilier ces deux passages? Qu'est-ce que je peux faire avec quelqu'un qui vient avec un passage ou un autre et qui va parler de Dieu? Si quelqu'un, par exemple, vous disait quelque chose sur moi, imaginez que vous ne me connaissiez pas, quelqu'un vous dit quelque chose sur moi, selon ce que vous allez entendre de moi, vous aurez une relation plus ou moins facile avec moi. Imaginez que quelqu'un vous dise, voilà, je te présente Bruno, garde bien ton portefeuille dans ta poche parce qu'il a tendance à voler un peu les sous. Voilà, maintenant vous pouvez vous dire bonjour et vous pouvez passer un bon moment ensemble. Ben, tu seras peut-être là avec ton sac à main en train de le garder, tu sais, contre ton ventre. Et tu vas te dire, oui, bon, ben voilà, on a passé une bonne après-midi, mais je veux quand même bien surveiller ce qui se passe. Et en réalité, la personne qui va soupçonner l'autre ne va pas forcément passer une si bonne après-midi que ça. De la même manière, si nous avons de Dieu en vue quelqu'un qui va mettre le doigt sur chacune de nos fautes, eh bien, la relation avec lui sera un petit peu difficile en réalité. Et par voie de conséquence, la relation avec les autres aussi. Hein? Dieu est une personne. Et donc, la relation qu'on va entretenir avec lui et l'impression qu'on a de lui est importante. Hein? Je dirais que tant qu'on n'a pas réussi à être amoureux du Seigneur, je crois qu'on n'a pas forcément encore une bonne compréhension de la relation que Dieu veut avec nous. Parce que de son côté, Dieu est amour et c'est ce qu'il veut partager avec nous. Donc c'est important pour nous aussi de se dire où j'en suis, est-ce que vraiment dans mon cœur, tout est net entre moi et lui. Est-ce que je suis dans une relation où je suis en train d'essayer de me cacher un peu, hein, imaginez si on vous disait, cette personne-là, c'est un styliste de mode et quand tes vêtements ne lui plaisent pas, il va le dire à tout le monde. Alors moi, je serai là avec mon trou sur mon jean et, bonjour, ça va, en train d'essayer de cacher, parce que bon, si jamais il voit le trou sur mon jean, ça passe mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil avec le Seigneur. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament et il n'y a pas un Dieu du Nouveau Testament. Il y a un seul et même Dieu qui ne change pas. Parce que Dieu ne change pas. Et en réalité, et c'est ça que l'on va comprendre, ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est l'humanité qui a changé. Et de par le fait du changement de l'humanité, la relation et le comportement de Dieu ont changé. Alors, je vous propose de lire dans 2 Rois, premier chapitre, 2 Rois. On va lire les versets 1 à 8, juste pour avoir le contexte. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Enfin bon, il en fut malade, ça veut dire qu'il a eu un accident. Et voilà. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-Zébub, ou Belzébuth, dieu d'Écrone, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écrone ?» C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla avec ce message. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia. Il leur dit, pourquoi revenez-vous ? Sous-entendu, sitôt. Hein. Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écrone ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Fallait oser quand même dire ça au roi. Hein. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Encore lui. Akazia, je ne sais pas si vous le savez, c'était le fils de Akab et de Jézabel. Akab et Jézabel étaient les deux pires, enfin, à leur époque en tout cas, c'était les deux pires rois et reines d'Israël. Et Akazia a hérité de leur bonté, c'est-à-dire de rien du tout, d'eux. Il a été très méchant aussi, il a suivi les idoles et il y avait un prophète, Élie, qui était remarquable, visiblement, parce que rien qu'à sa description, on savait que c'était lui. Et donc, le roi n'est pas très heureux de cette prophétie, et il décide de faire attraper Élie, pour le faire venir et qu'il s'explique de ce qui s'est passé. Donc, on va lire à partir versets 9 et 10. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes, soit 51 personnes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. » On va lire aussi 11 et 12. « Akasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu, descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ça fait 102 personnes qui ont été brûlées par le feu du ciel. Verset 13, on va lire 13 à 15. « Akasia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » Donc, il y avait des témoins, visiblement. L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Voilà, l'impression qu'on peut avoir aussi quand on lit ça, c'est de se dire, « Si tu touches à loin de l'Éternel, ça va mal se passer pour toi. » Vous avez peut-être déjà entendu ça aussi. « Ne touchez pas à loin de l'Éternel. » Allez, on va lire maintenant Luc 9, à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc là, Jésus va en Samarie. Il était un peu plus haut, il descend pour aller à Jérusalem et il doit passer par la Samarie. Donc, les messagers entrent dans un bourg des Samaritains, dans un petit village des Samaritains.
Et ils vont chercher un hôtel pour loger parce qu'il allait jusqu'à Jérusalem. Si vous lisez 2 Rois 17 nous explique l'histoire des Samaritains. D'où viennent les Samaritains? Donc, les Samaritains, eh bien, il faut savoir que... Alors, je ne sais plus à quelle époque c'est, mais c'est à l'époque de 2 Rois 17. Le roi d'Assyrie, pas le roi de Syrie, mais le roi d'Assyrie, a pris la Samarie et a emmené captifs les Israéliens. Et les Israéliens ont conservé les rites juifs. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi suivi les rites des gens d'Assyrie. Et ils se sont mariés avec des gens de Babylone. Donc on voit ça dans 2 Rois 17 au verset 33 par exemple, où il est dit « Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. » Voilà, on sert les deux en même temps. Ils se sont mariés également avec des personnes qui venaient d'autres nations que les nations juives. Vous savez que pour les juifs ce n'était pas permis. Et ça a créé des gros préjudices. Ça a créé des préjudices à la fois, ça a créé des préjudices raciaux et ça a créé des préjudices religieux. Puisque ces gens-là n'étaient plus vraiment juifs puisqu'ils étaient mélangés et ils ne suivaient plus tout à fait la religion juive puisqu'ils mélangeaient aussi avec d'autres dieux. De fait, les juifs et les samaritains se sont pris en aversion les uns les autres. En fait, ils ont considéré, et comme c'est malheureusement souvent le cas, comme ils venaient d'une même famille, voilà, l'une a mal tourné, et ça s'est très mal passé. On voit ça, par exemple, dans Jean 4, verset 9. Vous connaissez ce passage? Quand Jésus rencontre la Samaritaine au puits, elle dit, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. C'est une manière élégante de dire ils se détestent à mort. Au point qu'ils ne se parlent pas. Donc aujourd'hui, on pourrait dire, voilà, il y a du racisme chez nous, des choses comme ça.
Là, c'était un racisme tellement fort qu'ils ne se parlent même pas. Au point que la femme lui dit, mais tu te rends compte que toi, tu es juif et moi, je suis samaritaine et que tu me parles? Normalement, il n'y a pas de relation du tout. Pas de relation du tout. Ce qui nous montre d'ailleurs vraiment le cœur du Seigneur lorsqu'il va justement vers cette femme. Parce qu'il va briser, des barrières raciales. Il va briser des barrières racistes même. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. De la même manière aussi, c'était Jésus, un homme qui parle à une femme. Là aussi, il y a beaucoup de choses, des tabous, des liens, que Jésus vraiment a brisé. Et ça, c'est très fort. Et les Samaritains, donc, on le voit aussi, c'est confirmé également toujours dans Jean 4 et au verset 20. Les Samaritains n'adoraient pas le Dieu d'Israël comme les Juifs, puisqu'elle dit, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Même là, sur le point, même dans le fait d'adorer Dieu, ça n'allait pas. Rien n'allait. Elle a cherché un petit peu à titiller Jésus pour savoir ce qu'il en était. Et ce qui se trouve, c'est que, et c'est ça vraiment cette bonne nouvelle de Jean 4, c'est que Jésus a touché le cœur de cette femme qui est retournée dans son village. Et on l'a vu, tout le village de Samarie a été touché, au point que l'évangile s'est répandu même plus largement dans toute la Samarie. Donc, à un moment donné, ils ont reçu Jésus. Mais là, on est dans Luc 9, après cet épisode. Et après cet épisode, eh bien, on pourrait dire, lorsque Jésus est venu vers eux, les Samaritains ont reçu Jésus. Mais maintenant que Jésus passe par eux pour aller à Jérusalem, là, ça coince. C'est non, désolé, si c'est pour aller à Jérusalem,
je ne te reçois pas.
C'est un peu dur, malheureusement, mais c'est, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Luc 9, 54, donc je reprends. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» C'eût été juste. Ça aurait été complètement juste. C'est exactement ce qu'Élie a fait. Jacques et Jean s'appuient sur ce que Élie a fait et s'appuient sur quelque chose de totalement juste en disant « On ne reçoit pas notre maître, on ne nous reçoit pas. » Le feu du ciel doit tomber pour les détruire. Et même quand on compare les deux histoires, on se rend compte que les disciples Jacques et Jean avaient même plus de bonnes raisons de faire descendre le feu du ciel, puisque si on retourne dans 1 Roi 1 au verset 15, l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » En fait, Élie a fait descendre le feu du ciel alors qu'il n'y avait pas de crainte à avoir. Ils n'étaient pas venus pour le tuer, ils étaient juste venus pour l'amener au roi. Il a fait descendre le feu du ciel alors que ça n'était pas justifié du tout. Donc quelque part, les disciples, on pourrait dire, ont une raison beaucoup plus valable qu'Élie de faire descendre le feu du ciel pour faire disparaître ces Samaritains. Mais au verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. C'est-à-dire, il les a grondés fort. Il leur dit, mais faites n'importe quoi. En disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils s'en allèrent dans un autre bourg. C'est-à-dire, tant pis, ils ne veulent pas nous recevoir, on va ailleurs. Mais, en tout cas, Jésus va donc reprendre ses disciples en disant, non, ce que vous faites n'est pas de mon esprit. Mon cœur n'est pas là-dedans. Ma nature, ce n'est pas de faire ça. Et je vais peut-être un peu loin pour certains, mais je pense qu'il
faut le faire quand même.
Si Jésus avait été vivant du temps d'Élie, dans son corps terrestre, si son ministère terrestre avait été du temps d'Élie, je pense qu'il aurait réprimandé Élie d'avoir fait descendre le feu du ciel. Dans l'Ancien Testament, on va voir un Dieu dur qui va frapper les gens. Dans le Nouveau Testament, on va voir Jésus. Et un verset qui va bien nous aider, c'est le verset suivant. C'est Hébreux 1, verset 3, qui parle de Jésus d'ailleurs, et qui nous dit « Il est, donc Jésus est, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus, en fait, il faut bien le savoir, est la seule, et on l'avait vu dans l'autre leçon, Jésus est la seule représentation parfaite de qui est Dieu. Il est exactement le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent de Dieu. Il est à l'image complète de Dieu. C'est-à-dire, sa manière d'agir sa manière de traiter les gens, sa manière de répondre, sa manière d'exercer tout son ministère est à l'image de ce qui est dans le cœur de Dieu. Avant la venue de Jésus, on connaissait Dieu non pas au travers de Jésus, justement, puisqu'il n'était pas encore venu, on le connaissait au travers des patriarches et au travers des prophètes. D'ailleurs, ce qui nous est dit dans le verset juste avant, verset 2 de Hébreux 1, il nous est dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Voilà. Avant, tu pouvais connaître Dieu au travers des prophètes. C'était leur manière d'avoir compris Dieu qui était expliquée aux humains. Maintenant, c'est la révélation parfaite de Jésus-Christ lui-même qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle et qui va montrer l'empreinte de Dieu, qui va être le reflet de la gloire de Dieu. Jésus, c'est la représentation parfaite du Dieu invisible. Et il s'est montré miséricordieux envers les hommes. Un point qui est important à comprendre, et on l'avait vu lors de la dernière leçon, c'est que 1 Corinthiens 2,14 nous dit que les choses spirituelles se comprennent par l'esprit. C'est-à-dire que pour comprendre réellement la nature de Dieu, il faut être né de nouveau. Il faut recevoir l'esprit de Dieu. Parce que tant que tu vas chercher à comprendre Dieu d'une manière intellectuelle, avec une sagesse humaine, tu ne vas pas comprendre en réalité comme il faut. Avant Jésus, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Ça n'existait pas. Alors, ils avaient malgré tout des révélations. Ils avaient même des fois de très grandes révélations, parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu qui venait sur eux. Mais malgré tout, ils n'avaient pas cette compréhension aussi grande que l'on peut avoir. Je ne dis pas que l'on a, mais que l'on peut avoir, avec le potentiel que l'on peut avoir pour nous. Il y a quand même toujours une manière de faire connaître Dieu. Mais juste avant de dire ça, voyez par rapport à ce verset de 1 Corinthiens 2,14. On va juste le relire pour se le remettre en mémoire. Il nous est dit, l'homme naturel, c'est-à-dire en grec c'est psyché, hein, l'homme lié à l'âme, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, n'accepte pas, c'est ne reçoit pas, selon les versions. Ne reçoit pas est plus juste ou ne comprend pas, on pourrait dire. Les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Hein? Et il faut bien comprendre les choses suivantes. Regardez, si vous prenez par exemple l'Ancien Testament et la loi, et on va dire, eh bien, si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. Ça, clairement, c'est l'Ancien Testament. Si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. Ça, il n'y a pas besoin d'être né de l'Esprit pour le comprendre. C'est quelque chose qui est facile à comprendre. Par contre, tu as besoin d'être né de nouveau pour comprendre que donner aux autres est une grâce que Dieu t'a faite. Et que tu peux donner librement avec joie pour bénir. Et que plus tu vas donner, plus tu es en train de semer quelque chose. Et plus tu es en train de rentrer dans des vérités du royaume. Ça, pour le comprendre, que plus tu donnes, plus tu gagnes, il faut l'Esprit de Dieu en toi. Il faut une révélation qui vient de Dieu. Donc, d'une certaine manière, Dieu pouvait expliquer certaines choses aux personnes, aux humains sous l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, de manière un peu rude et dure, parce que c'est compréhensible de cette manière-là. Parce que si on avait simplement expliqué, oui, c'est quelque chose qui vient du cœur, oui, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait ces choses-là, ça n'aurait pas fonctionné, il n'aurait pas compris comment ça marche. C'est un peu la même chose si on parlait de l'éducation des enfants. Donc vous savez que la Bible nous encourage, ou nous commande, ou nous demande de corriger les enfants avec un bâton. Et il faut bien comprendre que avant un certain âge, avant que l'enfant soit en âge de raisonner de lui-même, c'est le seul moyen pour lui faire comprendre certaines choses et pour le garder et pour l'empêcher d'aller trop loin. Hein? Imaginez que vous disiez à un tout petit, là, qui a 2 ans, écoute, tu prends pas le jouet de ta sœur, parce que si tu prends le jouet de ta sœur, ce qui va se passer, c'est que ça fait monter l'égoïsme en toi. Si tu es égoïste, tu vas pas penser aux autres. Alors du coup, dans ton mariage, ça va pas fonctionner. Tu vas divorcer, tu vas perdre ton boulot, ça va être la catastrophe, etc. Te regarder avec des grands yeux, rien comprendre. Par contre, si tu lui dis, si tu touches au jouet, tu as une fessée, là, il est capable de comprendre. Mais de la même manière, c'est quelque chose qui est temporel. Il ne serait pas normal, par exemple, qu'à mon âge, ma maman me dise, si tu fais ça qui ne va pas, tu auras une fessée. Il y aurait quelque chose qui ne tournerait pas rond. Parce qu'à un moment donné, chacun de nous, on devient responsable et on commence à comprendre les choses. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu l'analogie que j'essaie de donner ? En gros, jusqu'à la venue de Jésus et jusqu'à la possibilité de naître de nouveau et au fait d'avoir l'Esprit de Dieu en toi, l'être humain était un peu comme ce petit enfant. Ce petit enfant qui a besoin d'être restreint pour ne pas faire quelque chose qui va lui-même lui faire du mal. Hein? Donc la question, c'est la suivante. Sous l'Ancien Testament, il n'était pas possible, sauf à de rares exceptions, de recevoir correctement les choses spirituelles, de comprendre précisément les choses spirituelles, parce que personne n'était né de nouveau. Jésus n'avait encore racheté personne. Donc la question, c'est comment faire pour que tous les saints de l'Ancien Testament, qui n'avaient pas cette compréhension spirituelle, qui n'avaient pas encore toutes ces compréhensions, puissent résister au diable, puissent résister au mal. Regardez par exemple Job, il n'a pas cherché du tout à résister au diable. Pour lui, ça venait de Dieu. Il n'y avait pas cette compréhension spirituelle qui était suffisante. La question, c'est maintenant comment faire avec tous ces saints de l'Ancien Testament pour les préserver du mal. Parce qu'il faut bien se dire que le péché, depuis Adam et Ève, est rentré dans l'espèce humaine, et ce péché avait la capacité de détruire toute la race humaine. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé du temps de Noé. Il a fallu à un moment donné que, c'est ce qu'on a lu, Genèse 6, que Dieu lui-même envoie le déluge. Et on va se dire, c'est pour punir la race humaine. En réalité, c'est pour sauver la race humaine. En fait, il fallait empêcher les humains de pécher, parce que plus ils allaient rentrer dans le péché, plus ils allaient se faire détruire eux-mêmes. Mais ils n'avaient aucun moyen, n'étant pas nés de nouveau, d'être libres du péché. En fait, tu es libre du péché lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu en toi qui t'a libéré. Vous vous rappelez ce passage de Romains qui nous dit « La femme est liée à son mari tant qu'il est vivant, mais une fois qu'il est mort, elle est libre. Hein, » Ce n'est pas un conseil pour le mariage et le remariage, c'est une explication sur le fait qu'avant, les humains étaient liés au péché. Mais maintenant, le péché est mort, donc elle peut maintenant être unie à Dieu. Donc, comment faire pour arriver à restreindre les humains, à les restreindre pour qu'ils ne se livrent pas complètement au péché? Eh bien, ce qu'on a dit tout à l'heure, si tu prends le jouet de ta sœur, tu as une correction. Donc là, c'était, si tu touches au péché, tu vas mourir. C'est le même principe que l'éducation des enfants. En fait, tu vas avoir une peine, a priori, donc une peine plus faible, pour éviter quelque chose de plus fort. Vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui sont morts. Oui, ils sont morts en tant qu'individus. Et Dieu s'occupe d'eux. Mais là, Dieu est en train de traiter la race humaine dans son ensemble. De la même manière par rapport à Noé. Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Dieu n'a pas maudit ou condamné l'homme. Il a sauvé l'homme en tuant toute l'espèce humaine, sauf Noé et ses enfants. C'est comme quelqu'un qui a la gangrène, par exemple. Vous imaginez quelqu'un qui a la gangrène, ça monte, à un moment donné, on dit, désolé, il faut amputer. Tu amputes. Oh, quelle catastrophe, il est amputé. Oui, mais il est vivant. Si tu ne l'avais pas amputé, il serait mort. Oui.
Est-ce que ça veut dire que quand Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit de tuer toute une population, c'était pour sauver, justement, parce qu'ils auraient
pour la
terre.
Ah, par exemple, oui, ça c'est une question intéressante. Quand Dieu justement dit, vous allez rentrer dans ce pays et vous tuez tous les gens et les animaux, même les animaux, il faut voir comment ces autres peuples vivaient, même avec les animaux d'ailleurs. C'était des choses absolument terribles. Ils jetaient leurs enfants au feu. Enfin, c'était abominable. Et quelque part, en faisant ça, il faut bien comprendre que Dieu a choisi la nation d'Israël et a voulu la protéger pour qu'elle soit la lumière, qu'elle soit mise à l'écart pour sauver l'ensemble de la planète, enfin des humains de la planète. Il fallait qu'il puisse y avoir à un moment donné un endroit où il existe au moins une vierge disponible pour que Jésus puisse venir. Regardez dans l'histoire de Sodome et Gomorre, c'était difficile de garder des vierges. Et Dieu a voulu préserver et conserver en fait cette race humaine, ou la race humaine de manière générale, en choisissant, en se choisissant une personne, commençant par Abraham, et un peuple qui allait être capable de recevoir à terme le Messie, qui allait lui-même sauver l'ensemble de la terre. Si on devait faire une fresque chronologique, on mettrait ici zéro Adam, ici à peu près 6000, à peu près vers nous. Il s'est passé grosso modo 2500 ans entre la naissance de Adam et l'arrivée de la loi, le fameux bâton pour la correction, à peu près 2500 ans, entre 2000 et 2500, à peu près peut-être 2300 à peu près. Entre Adam, entre le premier homme et l'arrivée de la loi, Moïse, à peu près 2300 ans. Ensuite, il s'est passé à peu près un peu moins de 2000 ans de loi jusqu'à l'arrivée de Jésus. Maintenant, ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Jésus était la fin de la loi. Pendant, alors je vais, pour faire plus facile, on va dire c'est des tranches de 2000 ans, d'accord? Même si ce n'est pas le cas. Les 2000 premières années, il n'y avait pas de loi. Et Dieu, on va le voir, a fait miséricorde aux humains. Il n'a pas compté les fautes des humains pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, la loi est venue et là, c'était le bâton. Et il y avait ensuite deux autres millénaires, les deux derniers millénaires, sur lesquels on voit que Dieu a fait miséricorde aussi. En fait, la plupart des passages où l'on voit Dieu qui agit de manière dure, c'est dans cette période-là, des 2000 ans de loin. Et ça nous montre d'ailleurs que ce n'est pas ce qui est dans le cœur de Dieu, et on aura des versets pour s'appuyer là-dessus d'ailleurs précisément. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il a attendu, en réalité, 2000 ans avant de mettre en place cette correction forte qui est la loi, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et depuis, il est encore dans la grâce. En fait, Dieu est un Dieu de grâce, et Dieu est un Dieu qui fait miséricorde et qui fait grâce. Et il y a eu cette période de moins de 2000 ans, d'ailleurs un peu moins de 2000 ans, dans laquelle la loi a été très très dure, dans le but de préparer la venue de Jésus. C'est dans ce but-là. Regardez par exemple l'histoire d'Abraham, elle est vraiment intéressante. Lévitique 18:12 dit « C'est une abomination qui mérite la mort que d'épouser sa demi-sœur. » Tout le monde sait ça. Est-ce que vous saviez qu'Abraham a épousé sa demi-sœur ? Abraham, c'est d'ailleurs le seul homme jusqu'à la venue de Jésus dont il est dit qu'il a été appelé l'ami de Dieu. C'est Jacques 2:23 qui nous dit ça. L'ami de Dieu. C'est un homme qui a épousé sa demi-sœur et la loi qui allait venir après allait dire « si tu le fais, c'est une abomination ». Il n'a pas été puni pour ça. Dieu a dit « c'est mon ami ». Abraham, il a menti deux fois au sujet de sa femme par peur de mourir. Il ne voulait pas mourir, lui. Il a préféré la laisser à un autre. Hein, il a préféré qu'un autre la prenne pour sa femme plutôt que lui mourir. Donc il n'était pas non plus le meilleur mari qu'on puisse être, hein, avec une épouse. Hein, si on compare avec Éphésiens 5, « Marie, aimez vos femmes et comme Christ a aimé l'Église », là il en est un peu loin. Et pourtant, Abraham a reçu toutes les bénédictions. Abraham a couché avec sa servante à cause de son incrédulité à la parole que Dieu avait donnée. Et il l'a fait en essayant d'accomplir lui-même la promesse de Dieu. Et pourtant, Dieu l'a choisi pour être le père de la nation juive, le père de la foi, le père du peuple qui devait représenter sur terre Dieu. Ça nous montre quand même un Dieu qui fait miséricorde, un Dieu qui ne va pas nous punir en fonction de nos fautes. Tout ça, c'est avant la loi. Et c'est le cœur de Dieu, c'est le véritable cœur de Dieu. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'on va voir dans les leçons suivantes, c'est pourquoi la loi, à quoi elle a servi et comment est-ce qu'elle fonctionne. Dieu également a béni Abraham, et Non seulement il a béni Abraham, mais il a jugé le roi qui avait pris sa femme de manière innocente. C'est lui qui s'est retrouvé coupable, alors qu'Abraham, lui, a triché, a menti. Et Dieu lui dit, non, 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 c'est toi que je vais bénir. Parce qu'il avait choisi Abraham, c'est mon ami, et il va être le père d'une grande nation. Ce qui nous montre ce qui est dans le cœur de Dieu. De toute façon, même lorsqu'on veut essayer de voir Dieu comme un Dieu dur, même lorsqu'il a donné la loi, il a donné avec la loi les sacrifices. C'est-à-dire qu'avec la correction, il y avait le moyen d'en sortir. Il y avait le moyen d'y échapper, le sacrifice. Ça aussi, c'est extraordinaire. Donc on voit effectivement dans les 2000-2500 premières années, Dieu a traité les humains avec bonté et avec miséricorde. Il a béni ceux qui ont commis des actes qui méritaient même la mort. Après, pendant les 1500 années suivantes, eh bien les humains, en tout cas les juifs en particulier, ont été traités selon la loi, au point que même un homme qui allait ramasser un bâton le jour du sabbat devait être lapidé. Et depuis 2000 ans, il n'y a plus de loi. Depuis plus de 2000 ans, il n'y a plus de loi. Et pourtant, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris de quelle manière est-ce que Dieu voulait agir avec eux. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se placent encore sous la loi, attendant que Dieu agisse comme il agissait sous la loi. Alors vous allez me dire, pas tant que ça. Si par exemple vous vous dites, mince, vu ce que j'ai fait, je ne pourrais pas être béni, c'est la loi. C'est le même principe que la loi. C'est en fonction de ce que tu fais, tu vas recevoir de Dieu. Fais le bien, tu recevras une bénédiction. Fais le mal, tu auras une malédiction. C'est la loi de Deutéronome 28. Je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et voici toutes les malédictions qui t'accompagneront si tu ne suis pas la loi. Voici toutes les bénédictions qui t'accompagneront si tu les suis. C'est-à-dire, en fait, de toi, ce que tu fais toi, tu reçois ou pas la bénédiction. Donc si on se dit, vu que je me suis encore énervé avec telle personne, ça ne m'étonnerait pas qu'il m'arrive une tuile. Tu es sous la loi. Tu te places sous la loi alors que la loi est finie depuis 2000 ans. Et quand on n'a pas compris de quelle manière est-ce que Dieu veut agir envers nous, on va se retrouver très rapidement sous la condamnation, sous la culpabilité. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, je sens que quelque chose de mal va m'arriver. Ou alors, je ne comprends pas, j'ai jeûné 3 jours et je n'ai pas eu de réponse. Donc, la loi est venue à peu près 1000 ans après le déluge. Parce que le déluge est venu à peu près en 1650 et quelques, 1657 grosso modo. La loi est venue à peu près 1000 ans après le déluge, dans le but de restreindre le péché. En fait, quand on est en train de dire, l'action du péché, quand vous voyez ce qui s'est passé avant le déluge, où les hommes avaient tellement même des relations avec les esprits, que ça a donné les monstres mythologiques et les choses comme ça, vous voyez que Noé sort de l'arche, finalement, Dieu arrive à trouver un juste, c'est déjà pas mal, un seul, sort de l'arche, et après ça, il y a la tour de Babel, parce que les gens commencent encore une fois à s'élever, et Dieu est obligé d'intervenir pour dire, on les sépare pour pas qu'encore ils mettent leur plan à exécution et qu'encore le péché vienne. Il a fallu un moyen pour restreindre les humains à ne pas tomber dans le péché. Et cette seule restriction, c'était la loi. Et la loi va permettre de limiter la quantité de péchés commis, mais c'est comme les médicaments. Il y a un effet secondaire. Il y a un effet secondaire qui est négatif. C'est que tu vas moins commettre d'actes de péché, mais l'inverse, c'est que la nature de péché va être amplifié et prendre de la puissance. Et en fait, tu vas être dans un combat et tu vas être amené à une culpabilité forte, et c'est ce qu'on va voir en particulier dans l'heure suivante. Mais en tout cas, cette loi a permis de préserver la race humaine jusqu'à la venue de Jésus.